Nicolas Bergère, cinquième fichier. Vers l'amour. Thomas, Kid Arthur, Samuel et Tonley étaient allés prendre un repos bien gagné. Le vieil interprète, ancien employé d'imprimerie, ne pouvait plus dormir la nuit. Il proposa de faire le veilleur en cas d'un retour offensif, bien improbable, de la bande Caperlon. Nicolas était allé rassurer ces dames qui ne s'étaient pas couchées. Lui-même, une fois dans sa chambre, ne s'endormit que très tard. Il se demandait si l'affaire allait en rester là et si M. Caperlon n'allait pas chercher à se venger. Mais, au cours de son existence, M. Caperlon, qui ne craignait pas d'entrer en lutte avec le droit, avait appris à respecter la force. Le jour même, vers midi, on trouva une lettre adressée à Mademoiselle Van Stoel. Le signataire ne faisait aucune allusion au menu fait de la nuit précédente. « Mademoiselle, écrivait M. Caperlon, dès l'instant que vous prétendez que vous ne me devez plus rien, je ne veux pas entrer dans des contestations et des discussions à n'en plus finir. Pourtant, il me semble que vous ne pouvez me refuser le règlement d'une facture de 256 francs que je joins à la présente, vu qu'elle remonte à janvier dernier, et que vous pouvez vous convaincre que votre papa ne l'avait point payée. » Le premier mouvement fut d'envoyer promener M. Caperlon. Comment ? Cet homme, après avoir eu l'aplomb de réclamer plus de 20 000 francs, renonçait humblement à ses prétentions et se contentait d'une modeste somme. Non, il n'aurait même pas cela. Mais Mademoiselle Van Stoel déclara qu'elle lui ferait parvenir cet argent. Elle préférait en finir avec lui. Et d'ailleurs, il semblait très probable que ces 256 francs lui étaient dus. Seulement, demande-lui un reçu pour solde de tout compte, fit remarquer judicieusement la tante. Ambrose Adolphus Thomas, ce personnage surnaturel, repartit ce même jour vers Paris ou vers une forêt magique. Nicolas reprit son entraînement et, accompagné de Mademoiselle Van Stoel, qui conduisait un petit tonneau loué à Saint-Germain, les quatre hommes, vêtus de tricots au col montant, coiffés de bonnets de laine, s'en allèrent sur un rang dans la forêt. Ils suivaient au petit trot la voiture et de temps en temps piquaient un sprint de 60 mètres. Mademoiselle Van Stoel n'avait jamais conduit, mais l'habile Kid Arthur l'avait dressée en 5 minutes, lui montrant une façon simple et pratique de tenir les guides. L'après-midi, le travail au punching ball l'intéressa beaucoup. Elle s'amusa quand Nicolas sauta à la corde et fut ravie de le voir boxer contre le gros Samuel, tout étourdi de la danse. Lorsque les quatre hommes, une fois douchés et bouchonnés, retrouvèrent ces dames au jardin où le thé était préparé, Mademoiselle Van Stoel prit Nicolas à part et lui dit « Tout de même, je vais retourner à Rouen. » Il la regarda d'un air si décontenancé qu'elle se mit à rire. À ce moment, il est probable qu'elle était bien décidée à rester à Saint-Germain, mais par taquinerie, elle répéta avec le plus grand sérieux « Il faut que je retourne à Rouen, c'est plus raisonnable. Maintenant que l'affaire est arrangée avec ce Caperlon, je n'ai plus peur, et il vaut mieux que vous vous entraîniez tranquillement. On se reverra après le combat. » Nicolas était si timide avec Mademoiselle Van Stoel qu'elle faillit être victime de ses propres taquineries, car il n'osait discuter, et il était difficile à la jeune fille de revenir sur ce qu'elle avait dit d'un ton si péremptoire. Ils prirent place à table au milieu d'un silence funèbre. Heureusement, l'intervention de Kid Arthur arrangea les choses. « À quelle heure y a-t-il des trains pour Rouen ?» avait-elle encore demandé. Kid Arthur regarda Nicolas et comprit tout. « Vous devez rester ici, » dit-il à Mademoiselle Van Stoel. « Vous partez, c'est mauvais pour Louis. Mélancolie, mauvais pour entraînement. » Quand Kid Arthur parlait français, il ne pouvait guère chercher des nuances. Cette nécessité d'aller au plus pressé écourta toutes les circonlocutions où se fut attardée la délicatesse du timide Nicolas. « Je vous en prie, » dit-il à voix basse. Elle eut une moue hésitante, mais la cause était gagnée. Le lendemain matin, les quatre hommes en tricot de laine suivaient de nouveau dans les allées de la forêt le petit cheval que Mademoiselle Van Stoel conduisait, semblait-il, avec plus de brio. Cependant, le jour du combat approchait. Stanley Harrison s'entraînait à Chantilly, Battling Nicolas à Saint-Germain-en-Laye, et tous les jours, des articles circonstanciés relataient dans les journaux les phases, d'ailleurs en partie imaginées, de la préparation des deux boxeurs. On parlait aussi de l'agitation de la colonie anglaise, des sportsmen de Londres qui s'apprêtaient à passer le détroit, et l'on ne manquait pas d'ajouter que Stanley Harrison était grand favori dans le clan des jockeys. Gant de 4 onces. Plus que 4 jours. Il semblait à Nicolas que le soir du match n'arriverait jamais. Puis, tout à coup, le temps se mit à marcher. C'est vraiment un vieux préjugé de penser que les secondes sont toujours de durée égale. À certains moments, toutes les pendules de la terre vont plus vite. Mais comme à ce moment la cadence du pouls s'accélère chez tous les hommes, personne ne s'aperçoit que le temps a augmenté son allure. La journée grimpait vertigineusement du matin au soir. Puis elle retombait du soir au matin dans une chute obscure qui ne durait presque rien. Nicolas trouvait maintenant que ça allait un peu vite. Il restait tant qu'il pouvait les yeux ouverts pour retarder la venue du sommeil et n'être pas tout de suite au matin. Il était en condition vraiment parfaite. Sa préparation pour le match n'avait pas commencé trop tôt. Aussi n'était-il pas trop allégé, trop sec. Il travaillait encore la veille du combat. Le matin du grand jour, il fit un peu de gymnastique suédoise, une courte promenade à pied. Il prit un déjeuner confortable dès 11 heures du matin, de façon à pouvoir dîner un peu avant 6 heures. Puis il dormit 1 heure après son dîner, mais non pas étendu sur un lit. Il était assis sur un fauteuil et un tabouret supportait ses jambes allongées que le soigneux Kid Arthur avait entouré d'un manteau. Kid Arthur prétendait qu'il ne fallait pas s'étendre après le repas, mais dormir assis, de façon à laisser à l'estomac une position normale et à n'avoir pas le sang à la tête. Il ne devait ses règles d'hygiène à aucun médecin. C'était des idées, peut-être judicieuses, qu'il s'était forgées. Vers 8 heures, 2 automobiles vinrent prendre à Saint-Germain Battling Nicolas, qui fut installé au fond d'une voiture, à côté de Mademoiselle Van Stoel. Kid Arthur s'assit en face d'eux. Tonnelet, Samuel et la tante prirent place dans l'autre taxi. Les moteurs ronflèrent, et la caravane se mit en marche vers la gloire, ou vers la honte. Nicolas s'était effrayé par avance en pensant à ces moments suprêmes. Il se disait qu'il n'en supporterait pas l'énervement. Mais l'heure arrivée, il se sentait d'une insouciance extraordinaire. Se dirigeait-il vraiment vers un cirque, où il rencontrerait un boxeur redoutable, au milieu d'une foule d'inconnus plus effroyables encore? Non, c'était simplement une petite balade en auto par une nuit printanière. Puis, soudain, une crainte l'assaillit. Si un pneu crevait? Il y avait bien l'autre auto, mais ses pneus pouvaient éclater aussi. Il ne fut rassuré qu'en apercevant des rails de tramway. Cette petite peur subite était-elle le résultat d'un énervement inconscient? Une fois calmée, elle laissa Nicolas légèrement fébrile. Il était un peu oppressé. Il trouvait que le trajet n'en finissait pas. Et il s'efforçait de parler et de prendre un air dégagé pour ne pas laisser deviner son agitation à Kid Arthur et à Mademoiselle Van Stoel. Cependant, l'auto longeait l'avenue de la Tour Maubourg, parmi d'autres autos ardentes qui suivaient la même direction. Toutes se dirigeaient vers le cirque. Et ce fut pour Nicolas l'instant de la gêne la plus grande. Tous ces gens arrivaient là pour le voir. Il y avait déjà pas mal de voitures dans l'avenue de la Motte-Piquée. « Que de monde ! Que de monde !» disait Mademoiselle Van Stoel, amusée. La voiture avait tourné dans la petite rue où se trouve l'entrée des artistes. L'artiste en vue sauta sur le trottoir avec une affectation de souplesse et de légèreté. Puis, on gagna le bureau de l'administration. Un des organisateurs était là. On lui présenta Mademoiselle Van Stoel. « J'espère, dit-elle, que vous en avez du monde. » Il fit une moue. « Nous saurons ça exactement tout à l'heure. » « Nous avons vu énormément de voitures. »« Parce que c'est l'heure d'ouverture des bureaux, ça ne fait jamais que 3 ou 4 personnes par auto, et il en faut des personnes pour remplir le cirque. »« Non, » poursuivit-il en regardant Bergère. « Battling Nicolas n'est peut-être pas encore assez connu. On a fait tellement de battages pour de soi-disant révélations que le public n'y croit plus. » Quand vous aurez vaincu Stanley Harrison, vous ferez recette. Mais enfin, aujourd'hui, ce sera tout de même très convenable. On conduisit le Coming Man à sa loge. Un jeune homme blond, en habit, l'y attendait. C'était le vicomte de Costeran.
Je ne savais pas que c'était vous, Battling Nicolas. Je vous ai reconnu l'autre jour, quand on a publié votre photo. Vous pensez si on est venu? Mes amis et moi, nous avons pris 3 loges. Mais je vais vous laisser tranquille. On reviendra vous féliciter tout à l'heure.
Mais si, si, j'en suis sûr. Nous allons assister au match préliminaire.
Vous n'avez peut-être pas encore vu le programme. Tenez, prenez le mien. Nous en avons d'autres.
Le combat international, en 20 rounds, était précédé de 3 matchs qui mettaient aux prises Gaillard et Relongé, Denis et de Ponthieu, Rico et Tafoureau. Mademoiselle Van Stoel était installée avec la tante à des places de ring. Nicolas était content de rester un peu seul, avec Kid Arthur. Maintenant, le temps n'avançait plus. La montre d'argent, posée sur un coin du lavabo, avait ses aiguilles figées.
« Prenez garde, » disait Kid Arthur. « Premier round, il va commencer fort, fort. » Vous, attendre, attendre. Vous gardez la figure et pas du tout user du droit.
Nicolas n'avait jamais vu Stanley Harrison que sur des photos de journaux. Il connaissait le record de son adversaire. Stanley Harrison avait passé 1 semestre en Amérique. Sur les 5 combats qu'il avait livrés contre des hommes de première classe, il avait enregistré 1 défaite, manifestement injuste aux yeux des Anglais de là-bas. 2 matchs soi-disant nuls, où il avait eu l'avantage, et 2 victoires au point, qui, sans doute, avaient été éclatantes pour que l'arbitre eût bien voulu accorder un verdict favorable.
« L'entracte est commencé !» dit une voix de l'autre côté de la porte.
Kid d'Arthur ouvrit. Tonnelé, les serviettes à la main, Samuel, porteur d'un seau et de différentes bouteilles, était là, tout prêt. Kid Arthur fit sauter la ficelle d'un paquet. C'était la surprise. Il avait apporté pour son poulain une magnifique robe de chambre à ramages. Précédé du porteur du seau et du porteur des serviettes, suivi de Kid Arthur, qui lui avait mis une main sur l'épaule, Nicolas descendit l'escalier qui conduisait au cirque. Une haie de curieux se forma dans les couloirs pour les laisser passer. Et bientôt, Nicolas se trouva à l'entrée du cirque, éclatant de lumière. Un brouhaha salua sa venue. C'était un bruit confus où il y avait à boire et à manger. De bonnes gens tapaient des mains, les sceptiques avaient de gros ricanements, tout cela noyé dans le vaste soupir de soulagement de tous ceux qui n'avaient pas bougé pendant l'entracte et voyaient enfin le combat approcher. Nicolas monta sur le ring par une petite échelle. Il avait projeté de sauter par-dessus la haute corde, mais il craignit de rater son mouvement et passa rapidement par-dessous. Dans un coin du ring se tenait un autre homme en robe de chambre. Nicolas l'examina. Stanley Harrison, très brun, avait un visage obstiné de soldat romain. Trois hommes se tenaient autour de lui, que Nicolas sut plus tard être Herbert Sino, Arthur Warner et George Moore. Arthur Warner, nonchalant et doux, vint vérifier les bandages des mains de Nicolas. Puis Kid Arthur alla chercher les gants au milieu du ring et les mit à son poulain. Nicolas ne voyait plus le public. Il se trouvait sur le ring comme dans une chambre très éclairée et séparée du monde. Un nègre frisé, Gunther, fut présenté par le speaker et défia, pour un soir prochain, le vainqueur du match. Nicolas, qui n'avait pas entendu le défi, fut étonné de voir Gunther venir lui serrer la main. Puis Kid Arthur l'amena au milieu du ring, où se trouvait déjà le sympathique Harrison, à qui l'arbitre disait quelques mots en anglais. L'arbitre dit à Nicolas « C'est entendu, vous vous frappez dans le corps à corps jusqu'au commandement de Brick, alors vous vous remettez en garde. » Nicolas acquiesça, Stanley Harrison fit un gentil signe de tête et serra légèrement la main de Bergère. Puis il retourna dans son coin. Nicolas pensait qu'il n'avait nulle envie de faire du mal à cet aimable Anglais. Le speaker criait « Les adversaires acceptent de se frapper dans les corps à corps jusqu'au commandement de Brick. » Nicolas, de retour dans son coin, se sentit mou et sans entrain. Comment aurait-il l'énergie de cogner? Il entendit alors distinctement un spectateur du premier rang. « Ce garçon-là n'est pas mal taillé, mais ce sera fini au bout d'un round. C'est vraiment malheureux d'organiser des combats pareils. » Et qu'il y ait encore des imbéciles qui coupent dedans. » Cette petite réflexion arrivait à point. Elle valait mieux, pour chauffer un peu Nicolas, que les meilleurs stimulants du monde. Cependant, les soigneurs étaient sortis du ring, où il n'y avait plus que les deux combattants. Kid Arthur se trouvait maintenant de l'autre côté de la corde. Il avait passé ses mains sous les bras de Nicolas. Le gong se fit entendre. Sur le ring. On avait dit à Stanley Harrison que le débutant n'était pas une galette. Aussi, au début du premier round, resta-t-il dans une prudente expectative. Mais deux ou trois envois de son gauche étant arrivés à destination, il se rendit bien compte que la figure de Nicolas n'était pas hors de portée. Alors il attendit, pour faire durer son plaisir et pour ne pas expédier trop rapidement son adversaire. Car on ne gagne rien à ridiculiser l'homme qu'on a devant soi. Il vaut mieux au contraire lui accorder de l'importance, afin de remporter sur lui une victoire plus significative. Harrison agissait un peu comme un souleveur de poids qui, dans un music hall, feint de ne pouvoir arracher une lourde barre, pour donner plus de prix à son exploit au moment où il jugera bon de le réussir. Les deux ou trois coups du gauche du début n'étaient que des punches d'essai qui ne pouvaient faire du mal à Nicolas. Vers la fin de la reprise, un coup plus sérieux lui arriva sur la mâchoire. Il avait fait une esquive instinctive, de sorte que le coup ne se logea pas à un endroit critique. Il eut tout de même la tête très secouée. Et quand le gong résonna, il fit une petite promenade hésitante sur le ring avant de retrouver son coin. Il ne manquait pas précisément de souffle, mais il était un peu oppressé par l'émotion. Sa bouche était très sèche et il accueillit avec plaisir le morceau de citron qu'on lui fourra entre les lèvres. Il regardait devant lui sans penser qu'il était dans un cirque rempli de monde. Dans cette foule qu'il ne voyait pas, le visage de M. Aubréant se détacha et apparut comme dans un rêve. Et il pensa à son arrivée à Paris et à la première vision de ce M. Aubréant qui venait ouvrir la porte, le torse nu, en veston du matin et sentant le café noir. Cette évocation dura le temps d'un songe. Tonnelé, le petit boxeur extra-léger, tout en épongeant le front de Nicolas, lui soufflait toute la tactique enseignée par Kid Arthur. Pendant ce premier round, le vieil Américain s'était bien rendu compte de la complète infériorité de son poulain. On s'était trop pressé. Stanley Harrison était trop fort. Lui, Kid Arthur, l'avait bien dit à M. Baudrelin. Le sportsman de Versailles, que Nicolas n'avait pas vu à son arrivée, était assis parmi les soigneurs. Kid Arthur ne perdit pas son temps en vaines récriminations. On était dans un mauvais pas, il fallait, pour en sortir, risquer toutes les chances. « Voilà !» dit précipitamment Tonnelé. « Il faut pas que tu cherches à taper. Bloque les coups tant que tu peux. Protège ton menton et ton estomac. Il va se découvrir pour t'amener à attaquer. Alors surtout, écoute bien ce que dit Kid. Tape pas à fond. Il faut l'amener à encaisser tes coups. Et quand tu le verras bien découvert, vas-y du gauche tant que t'auras de force en plein sur le menton. « Les servants dehors » cria-t-on. « 10 secondes avant la fin du repos. » On soulevait Nicolas par-dessous les bras. Il se trouva de nouveau au milieu du ring. Il est bien rare qu'un plan de combat puisse être exécuté fidèlement sans être déjoué par le sort capricieux. Mais cette fois-ci, le destin voulut bien rester neutre et ne pas se mettre en travers de la tactique imaginée par l'ingénieux Kid Arthur, exécutée à la lettre par le docile Nicolas. La tête en avant, blotti derrière ses poings, il exaspéra Harrison par sa résistance. L'Anglais se découvrit. Nicolas sortit de sa cachette, allongea prudemment un coup du gauche qui semblait envoyé à fond. Stanley le reçut en pleine figure et sourit. Nicolas recommença. Il ne se servait pas du droit pour ne pas trop se découvrir. Dans les derniers temps, d'ailleurs, il avait fortement travaillé son gauche, qui était maintenant aussi effectif que son droit. Un second punch du gauche, également chiqué, fit de nouveau sourire Harrison. Rassuré, il offrait pour ainsi dire sa figure. Alors Nicolas, dans une détente terrible, lui envoya son poing sous le nez, en mettant dans ce coup de poing toute son âme, tout son espoir, tout son amour pour Mademoiselle Van Stoel. Harrison chancela terriblement et parut tourner de l'œil. Un hurlement prodigieux souleva le cirque tout entier. « Vas-y, vas-y, tu l'as !» Mais Nicolas, pour suivre, avait besoin de ramener à lui, en lui, tous les trésors d'énergie qu'il avait dépensés dans ce premier punch. Il laissa s'écouler 3 secondes, qui ne suffirent pas heureusement à Harrison pour reprendre son équilibre. Et de nouveau, l'âme, la vie, l'amour de Nicolas, l'espoir de ses vieux jours, tout revint animé d'un pouvoir irrésistible, le droit formidable du jeune Breton. Harrison, frappé à la mâchoire, tomba comme un pan de mur. L'arbitre battait la mesure au-dessus de sa tête. Mais le corps de l'Anglais resta inerte pendant plus de 10 secondes, et ses soigneurs, aidés par Nicolas, vinrent le ramasser. Kid Arthur s'était précipité sur le ring, avait embrassé son poulain. Il avait ensuite soulevé, en signe de victoire, le bras droit de Nicolas. Après un instant de stupeur, une énorme acclamation enveloppa le miraculeux bergère. Le record de Stanley Harrison, publié par les annales américaines, porterait cette mention « Juin 1910, Battling Nicolas, Cabi, France 2 ». Ce qui voulait dire que Stanley Harrison avait été mis knock-out par Nicolas en 2 rounds, dans ce vague endroit qu'on appelle la France. Le lendemain, M. Baudrelin reçut, chez lui, à Versailles, la visite de Nicolas. Notre ami bergère était venu en auto de Saint-Germain. Il était accompagné de Mademoiselle Van Stoel, qui l'attendait dans la voiture. M. Baudrelin, le soir du match, avait fait tenir à Nicolas une somme de 12 500 francs. C'était ce que devait toucher le vainqueur. Monsieur Baudrelin garda à son compte les frais d'entraînement et la récompense allouée à Kid Arthur. On disait qu'il pouvait se permettre d'être très généreux, car il avait, paraît-il, réalisé un sac considérable. Il souriait quand on lui en parlait et répétait « Pas tant que vous croyez !» La vérité vraie est qu'il avait très peu trouvé de paris. Stanley Harrison était sûr gagnant, mais les gens à qui on en avait proposé se méfiaient et disaient « Pourquoi veut-il nous donner Harrison? Il doit y avoir quelque chiquet là-dessous. » Enfin, l'important pour ce sportsman riche et plein d'amour-propre était de laisser croire qu'il avait gagné beaucoup d'argent. Au port. Nicolas était assis, dans le cabinet de M. Baudrelin, sur un petit coin de fauteuil, beaucoup plus mal à son aise que sur le petit tabouret de paille où il s'était reposé la veille, entre deux coups de gong. M. Baudrelin, tout exalté de leur victoire, l'entretenait de projets d'avenir. Une série de combats en Angleterre, au National Sporting Club, puis une tournée en Amérique, à New York, à Philadelphie, à San Francisco. Nicolas acquiesçait poliment et n'osait dire qu'il avait décidé de renoncer à la boxe. Dans les 3 heures d'insomnie qui avaient suivi son glorieux exploit de la veille, avec cette lucidité froide que la fièvre assure à certains esprits, il s'était aperçu très nettement qu'il était dégoûté de la gloire. Il ne se disait pas que son triomphe avait quelque chose d'usurpé et qu'il le devait moins à sa supériorité réelle qu'à une tactique habile de Kid Arthur. Si modeste que fût Nicolas, et si défiant de lui-même, il n'allait pas jusqu'à mettre en doute la régularité de sa victoire. Au contraire, il se trouvait trop supérieur. Il n'avait pas eu assez de mal à soulever dans le vaste cirque cette prodigieuse acclamation qui retentissait toujours à ses oreilles et qui l'effrayait encore. Ah, ce bruit d'ovation, comme il l'aimait et comme il le détestait. Il aurait voulu, tout de suite, le soir même, remporter une nouvelle victoire pour recevoir à nouveau cet hommage frénétique. Et la crainte de ne plus le retrouver lui conseillait d'en rester là, de s'en aller en pleine gloire naissante et d'emporter dans une retraite obscure le souvenir d'un triomphe bien intact. C'était ce même sentiment d'ordre, d'économie, qui lui a fait mettre de côté ce magnifique chapeau haut de forme qu'il avait acheté le lendemain même de son arrivée à Paris, qu'il n'avait jamais mis qu'une fois, mais qu'il emportait fidèlement dans ses pérégrinations en l'installant à une place choisie dans toutes les armoires d'hôtel. Cependant, M. Baudrelin, après avoir exposé ses projets, disait « J'attends demain la réponse du National Sporting Club. Ce serait pour tout de suite. Il faudrait vous en aller en Angleterre d'ici 2 ou 3 jours. » « C'est que... » dit Nicolas. « C'est que... » C'est que ces jours-ci, ça ne me sera guère possible. Oh, il ne faut pas vous endormir. Je vous conseille au contraire de profiter de votre bonne forme actuelle. Ne la perdez pas. Autrement, ce serait tout un travail pour vous remettre en condition.
Oui, oui, dit Nicolas.
Puis, excédé par ce petit jeu d'esquives et de retraites, il se décida tout à coup à en mettre. Le besoin de vaincre sa timidité le poussa à dire à M. Baudrelin, presque brutalement, « Je crois que je vais renoncer à la boxe. » M. Baudrelin le regarda avec stupéfaction. « Oui, dit Nicolas, je vous remercie bien. Vous avez été bon pour moi. C'est grâce à vous que je suis devenu ce que je suis et que j'ai gagné une somme importante. Seulement, je vais vous dire, monsieur... » Il ne retrouvait plus le nom de son interlocuteur. Monsieur aurait suffi, mais il fallait absolument retrouver ce nom. Nicolas y mettait une sorte de point d'honneur. « Monsieur Baudrelin, dit-il enfin, je tiens à vous dire que j'ai des projets. Oui, des projets de mariage, avec une demoiselle, une jeune fille très bien et qui me plaît. »
Parfait, dit Monsieur Baudrelin. Alors vous me lâchez après tout ce que j'ai fait pour vous.
Je suis prêt à vous rendre intégralement la somme que vous m'avez fait gagner.
Nicolas s'était levé, il était tout rouge, son regard vacillait. Et comme Monsieur Baudrelin, de la main, semblait repousser son offre,
« Je tiens à vous rendre cette somme, » dit Nicolas.
Monsieur Baudrelin, très mécontent et gonflé sans doute d'irritation, avait pris une feuille de papier sur son bureau et nerveusement, un grand crayon à la main, barrait ce papier de hachure. Pendant un bon moment, Nicolas et lui gardèrent le silence. Nicolas se serait tu ainsi éternellement, mais il pensa que Mademoiselle Van Stoel l'attendait. Seulement, il ne trouvait pas de mot de sortie. Enfin, ce fut Monsieur Baudrelin qui parla.
« Je ne veux pas vous empêcher de faire ce que bon vous semble. Vous êtes votre maître. Je trouve absurde de ne pas profiter de votre forme actuelle. Enfin, vous avez des idées de mariage en tête, et quand on a ces idées-là, mariez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette personne que vous comptez épouser ?»«
Une orpheline. » La fille d'un négociant qui est mort il n'y a pas longtemps.
Monsieur Baudrelin recommença son petit travail de hachure au crayon. Mais la cadence était plus lente. La feuille étant presque couverte, il en prit une autre toute blanche et se mit à tracer d'élégantes volutes et mille autres capricieux ornements.
Qu'est-ce que vous penseriez d'une place d'intendant en Normandie, dans un domaine ?
Dit-il sans lever les yeux de son papier.
Nicolas cherchait une formule de remerciement. Il ne trouvait rien et se contenta de soupirer fortement à plusieurs reprises.
Monsieur Baudrelin était-il décidément l'homme généreux annoncé à l'extérieur? Voulait-il garder Nicolas sous la main pour l'avoir à sa portée dès que le jeune homme changerait d'idée et serait repris par le noble désir d'envoyer des coups de poing à ses semblables?
Il se leva, posa la main sur l'épaule de Bergère et lui dit, en le dirigeant vers la porte,
« Vous vous installerez à la campagne. Nous nous entendrons sur la question des appointements. »
Nicolas était décidément incapable d'émettre la moindre phrase de gratitude. Ils descendirent ensemble l'escalier qui menait à l'antichambre. Puis, ils descendirent encore les marches du perron et arrivèrent jusqu'à l'autotaxi où attendait Mademoiselle Van Stoel.
Monsieur Baudrelin s'inclina.
« Présentez-moi donc à votre fiancée. »
Nicolas, de rechef, rougit jusqu'à en éclater. Jamais il n'avait adressé la moindre demande à Mademoiselle Van Stoel, et voilà que brusquement on l'appelait sa fiancée. Il ne put que balbutier le nom de Monsieur Baudrelin.
Le généreux sportsman dut certainement être étonné que son nom ne fût pas suivi de plus de commentaires tels que « Mon bienfaiteur » ou « Je vous dirai ce qu'il a fait pour moi ».
Mais Nicolas, déjà assis dans l'auto mise en marche, ne pensait qu'à ne pas regarder Mademoiselle Van Stoel. Il avait les deux mains sur ses genoux, il était oppressé, il avait la bouche sèche, et personne n'était là pour lui donner un morceau de citron. Enfin, une main infiniment douce, gracieuse, absolutrice, vint se poser sur sa main. C'était la réponse de Clara Van Stoel. Ce simple geste mettait fin aux angoisses de Nicolas Bergère. Il marquait en même temps le terme de sa vie d'aventure, et c'était mieux ainsi, car s'il eut toujours assez de curiosité pour chercher les aventures, il manqua un peu d'audace pour les poursuivre. C'est ainsi que le récit des péripéties de sa vie est fait d'événements réussis ou ratés, suivant que la Providence restait neutre ou y mettait du sien. Car Nicolas, comme beaucoup d'autres hommes, n'arrivait à rien d'important sans un petit coup de main du destin.